Chapitre 9. La fin du récit du prêtre. Dérobé. 1. Les lits sont faits, leur annonça Rosalita Munoz en les voyant arriver. Eddie était tellement fatigué qu'il crut qu'elle avait dit tout autre chose. Il est temps d'aller cercler le potager, peut-être, ou bien il y a 50 ou 60 personnes dans l'église qui voudraient vous rencontrer. Après tout, qui parlait de faire son lit à 3 heures de l'après-midi? « Hein ?» demanda Susanna le regard trouble. « Qu'est-ce que tu dis, mon chou? J'ai pas tout compris. »« Les lits sont faits, » répéta la femme à tout faire du père. « Vous deux, vous irez dans ceux où vous avez dormi avant-hier. Le jeune sot prendra le lit du père. Et tu peux emmener ton bafouilleux si tu veux, Jake. C'est le père qui m'a dit de te dire ça. Il vous aurait bien annoncé tout ça lui-même, mais cet après-midi, c'est sa tournée des malades. » Il leur apporte la communion. Elle dit cette dernière phrase avec une incontestable pointe de fierté. Un lit, répéta Eddie. Il ne parvenait pas à en saisir le sens et il regarda autour de lui comme pour vérifier qu'on était bien au milieu de l'après-midi et que le soleil brillait toujours chaudement. Un lit? Le père vous a vu au magasin, développa Rosalita. Et il s'est dit que vous auriez besoin d'un bon petit somme. Après avoir parlé à tous ces gens. Eddie finit par comprendre. Il se dit qu'il y avait bien dû y avoir dans sa vie un moment où il avait ressenti plus de reconnaissance envers la gentillesse de quelqu'un, mais il ne se rappelait franchement pas quand, ni ce que cette gentillesse avait pu être. Au début, ceux qui s'étaient approchés, alors qu'ils se trouvaient dans les fauteuils devant la boutique de Touques, l'avaient fait lentement, par petits groupes hésitants. Mais quand ils constatèrent que personne n'avait été changé en pierre ou n'avait pris une balle dans la tête, lorsqu'il se produisait une discussion animée ou un éclat de rire, ils vinrent de plus en plus nombreux. Le ruisselet devint raz-de-marée, et Eddie comprit ce que signifiait être un homme public. Il fut ébahi de constater combien c'était une position difficile et éprouvante. Ils voulaient tous des réponses simples à un millier de questions compliquées. D'où les pistolets roses venaient et où ils allaient n'étaient que les deux premières d'une longue liste. À certaines de ces questions, ils trouvaient des réponses sincères, mais Eddie s'entendit formuler de plus en plus d'explications équivoques d'hommes politiques, et il entendit ses amis faire de même. Il ne s'agissait pas à proprement parler de mensonges, mais de petites touches de propagande qui sonnaient comme des réponses. Et tout le monde voulait un regard droit dans les yeux, et un « grand bien à vous » qui avait l'air de venir droit du cœur. Même Otte prit en charge une partie du travail. Il accepta les caresses répétées. Il parla quand on lui demandait, jusqu'à ce que Jake se lève et aille mendier un bol d'eau à Ibn Touk. Au lieu de quoi, ce galant homme lui donna une gamelle en fer blanc et lui dit qu'il pouvait la remplir à l'abreuvoir devant la boutique. Jake se trouva entouré de gens du coin qui continuaient de l'interroger, alors qu'il se livrait à cette simple tâche. Otte vida la gamelle jusqu'à la dernière goutte, puis dut affronter son propre lot de curieux, pendant que Jake retournait remplir le bol à l'abreuvoir. En somme, ce furent 5 des plus longues heures qu'Eddie avait eues à vivre jusqu'ici, et il se dit que jamais plus il ne regarderait la célébrité du même œil. Du côté des aspects positifs, avant de quitter enfin la véranda et de reprendre le chemin de la maison du vieux, Eddie se dit qu'ils avaient dû parler à tous les habitants de la ville, sans compter bon nombre de fermiers, d'éleveurs, de cow-boys et d'ouvriers agricoles des alentours. La rumeur allait vite. Les habitants du monde de l'extérieur se tenaient sous le porche de l'épicerie générale, et si on voulait leur parler, ils étaient prêts à répondre. Et maintenant? Juste ciel, cette femme, comment donc, cet ange, venait leur parler de lit. Combien de temps on a? Demanda-t-il à Rosalita. Le père devrait être de retour vers 4 heures, mais on ne soupera pas avant 6 heures, et ce, si votre dîne rentre à temps. Qu'est-ce que vous diriez que je vous réveille à 5 heures et demie? Ça vous laissera le temps de vous rafraîchir. Cela vous sied? « Ouais, » fit Jake en lui adressant un sourire. « Je ne savais pas que parler avec des gens pouvait donner sommeil comme ça. Et soif aussi. » Elle hocha la tête. Il y a un broc d'eau fraîche dans le garde-manger. Je devrais vous aider à préparer le repas, proposa Susanna. Puis elle fut incapable de retenir un énorme bâillement. Sally Adams va venir m'aider, répondit Rosalite. Et puis ce n'est qu'un repas froid de toute façon. Allez-y maintenant, allez vous reposer. Vous êtes épuisé et ça se voit. 2. Dans le garde-manger, Jake but à longues gorgées, puis versa de l'eau pour ôter dans un bol qu'il emporta dans la chambre du père Callahan. Il se sentait coupable de se trouver là et d'avoir un bafou bafouilleux avec lui. Mais on avait retourné les couvertures du lit, gonflé l'oreiller, et tout le lit semblait l'appeler. Il posa le bol par terre et ôter se mit à laper en silence. Jake se déshabilla, garda ses sous-vêtements neufs, puis s'allongea et ferma les yeux. Je ne vais sans doute pas réussir à dormir vraiment, se dit-il. Je n'ai jamais été très bon pour les siestes, même à l'époque où Madame Shaw m'appelait Bama. Moins d'une minute plus tard, il ronflait légèrement, un bras replié sur les yeux. Otté se coucha sur le sol à côté de lui, la truffe posée sur sa patte. 3. Eddie et Susanna étaient assis côte à côte sur le lit de la chambre d'amis. Eddie avait toujours du mal à le croire. Non seulement une sieste, mais une sieste dans un vrai lit. Le luxe du luxe. Tout ce qu'il voulait, c'était s'allonger, prendre Susanna dans ses bras et dormir. Mais avant ça, ils avaient une question à régler. Elle l'avait tracassé toute la journée, même au plus fort de leur petit meeting improvisé. Suze, à propos du grand-père de Tian, je ne veux pas en entendre parler, répliqua-t-elle instantanément. Surpris, il haussa les sourcils. Il aurait dû s'en douter, cependant. On pourrait en parler, bien sûr, mais je suis fatigué, je veux dormir. Répète à Roland ce que le vieux t'a dit, et répète-le aussi à Jake si tu veux, mais ne me dis rien à moi. Pas encore. Elle était là, assise à ses côtés, sa cuisse brune contre sa cuisse blanche à lui, son regard marron soutenant son regard noisette à lui. « Tu m'entends ?»« Grand merci, beaucoup, beaucoup. » Il éclata de rire, la prit dans ses bras et l'embrassa. Et bientôt, ils étaient profondément endormis dans les bras l'un de l'autre, front contre front. Le soleil qui déclinait fit jouer sur leur corps un rectangle de lumière dorée. Ils se déplaçaient plein ouest, du moins pour le moment. Rallant put le constater par lui-même en remontant à cheval l'allée qui menait au presbytère du vieux, après avoir libéré d'un coup de pied ses jambes endolories des étriers. 4. Rosalita vint au-devant de lui pour l'accueillir.
« Allez, Rallant ! Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. »
« Et deux fois le compte pour vous, » fit-il en hochant la tête.
« J'intuite que vous allez peut-être demander à certaines d'entre nous de lancer le plat contre les loups, leur venue. »«
Qui vous a dit ça ?»«
Oh, c'est un petit oiseau qui me l'a murmuré à l'oreille. »«
Ah,
et vous l'accepteriez, si on vous le demandait ?»
Elle lui adressa un rictus qui lui découvrit les dents. « Il n'y a rien au monde qui me ferait plus plaisir. » Puis le rictus disparut pour laisser place à un sourire sincère. « À part peut-être si tous les deux on pouvait découvrir ensemble un plaisir qui s'en rapproche. Voudriez-vous visiter ma petite cabane, Roland ?»«
Si fait. »
Et voudriez-vous me frotter avec cette huile magique dont vous avez le secret?
C'est frotter que vous voulez?
Si fait.
Frotter fort ou frotter doucement?
J'ai entendu dire qu'il n'y avait pas mieux qu'un petit mélange des deux pour soulager une articulation douloureuse. Elle y réfléchit une seconde, puis éclata de rire et le prit par la main.
Bien.
pendant que le soleil brille encore et que ce petit coin du monde est endormi. Il la suivit bien volontiers là où elle l'emmenait. Elle avait une source secrète entourée de douces mousses à laquelle il fut heureux de s'abreuver. 5. Callahan finit par rentrer aux alentours de 5h30 au moment où Eddie, Susanna et Jack se levaient. À 6h, Rosalita et Sari Adams servirent un dîner composé de légumes verts et de poulet froid sous le porche entouré de paravents à l'arrière du presbytère. Roland et ses amis mangèrent avec appétit, le pistolero se réservant non pas une, mais deux fois. Callahan, en revanche, ne fit pratiquement que remuer sa nourriture dans son assiette. Si son hâle lui donnait l'apparence d'un homme en pleine santé, il ne pouvait dissimuler les cernes violacées sous ses yeux. Lorsque Sarah, une femme gaie et joviale, à la taille forte mais aux pieds légers, apporta un gâteau aux épices, Callahan se contenta de secouer la tête. Quand il ne resta plus sur la table que des tasses et la cafetière, Roland sortit son tabac et haussa les sourcils. « Peux-tu ?» l'encouragea Callahan, puis levant la voix. « Rosie, apporte à ce garçon quelque chose ou mettre ses cendres. » « Grand homme, je pourrais vous écouter une journée entière, » dit Eddie. « Et voyons !» renchérit Jake. Callahan sourit. « Je ressens la même chose à votre égard, les garçons, au moins un peu. » Il se resservit une demi-tasse de café. Rosalita apporta à Roland une coupe d'argile. Lorsqu'elle fut partie, le vieux prit la parole.
J'aurais dû terminer ce récit hier soir. J'ai passé la plus grande partie de la nuit à me tourner, à me retourner, à me demander comment j'allais raconter la suite.
Ça vous aiderait de savoir que j'en connais déjà une partie ? Demanda Roland.
Probablement pas. Vous êtes allé à la grotte de la porte avec Enchik, n'est-ce pas ?
Oui. Il dit qu'il y avait une chanson sur la machine qui parle, qui les a envoyés là-bas vous chercher, et qu'en l'entendant, vous avez pleuré. C'est celle dont vous nous avez parlé.
Someone saved my life tonight, oui. Et essayez d'imaginer comme ça peut être étrange de se retrouver assis dans une cabane manie, Calabrian Sturgis, à regarder en direction des ténèbres de tonne foudre en écoutant Elton John.
Waouh, l'interrompit Suzanne. Vous êtes très en avance sur nous, père.
Aux dernières nouvelles, vous étiez à Sacramento en 1981, et vous veniez de découvrir que votre ami s'était fait tailler en pièces par ses soi-disant frères Hitler. Elle jeta un regard sévère à Callahan, puis à Jack, pour finir par Eddie.
Je dois dire, messieurs, que... Vous n'avez pas l'air d'avoir fait beaucoup de progrès sur le terrain de la paix dans le monde depuis que j'ai quitté l'Amérique.
Ne nous mets pas ça sur le dos, protesta Jake. J'étais à l'école.
Et moi, j'étais défoncé, répliqua Eddie.
D'accord. D'accord, c'est pour moi alors, fit Callahan, ce qui fit rire tout le monde.
Terminez votre récit, dit Roland. Peut-être dormirez-vous mieux cette nuit.
Peut-être, oui.
Il sembla reprendre ses esprits, puis se lança.
Ce que je me rappelle à l'hôpital, ce que tout le monde se rappelle, j'imagine, c'est l'odeur d'antiseptique et le bruit des machines. Surtout les machines. Leur bip incessant. Le seul autre équipement qui fasse ce bruit-là, c'est le système de pilotage dans le cockpit d'un avion. Une fois, j'ai demandé à un pilote et il m'a dit que le système de navigation faisait le même bruit. Je me rappelle que cette nuit-là, je me suis dit qu'il devait y avoir un paquet d'avions aux soins intensifs. Rowan Magruder n'était pas marié à l'époque où je travaillais au foyer, mais je me suis dit qu'il l'était depuis.
car il y avait une femme assise sur la chaise près de son lit, qui lisait un livre de poche, bien habillée, dans un joli tailleur vert, des bas et des chaussures à talons plats. Je me sentais enfin prêt à me retrouver en face d'elle. Je m'étais lavé et coiffé aussi bien que j'avais pu, et je n'avais pas bu un verre depuis Sacramento. Mais quand nous nous sommes effectivement retrouvés face à face, ça n'allait plus du tout. Elle était assise dos à la porte, vous voyez. J'ai frappé sur le montant de la porte, elle s'est tournée vers moi, et mon prétendu sang-froid en a pris un coup. J'ai reculé d'un pas et je me suis signé. C'était la première fois depuis que Rowan et moi avions rendu visite à Loupé dans ce même trou. Et vous devinez quoi ?
Bien sûr, dit Susanna. Parce que tout s'emboîte à merveille, comme toujours, encore et encore et encore.
Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas ce que donnera le résultat final. Ou bien, on ne le comprend pas, suggéra Heidi.
Callahan acquiesça.
C'était comme regarder Rowan, mais avec de longs cheveux blonds et des seins. C'était sa sœur jumelle. Et elle a ri. Elle m'a demandé si j'avais cru voir un fantôme. Tout ça me paraissait irréel, comme si j'avais glissé dans un de ces autres mondes qui ne font que ressembler au monde réel, si le réel existe, mais sans être identique. J'ai ressenti cette pulsion folle, celle de sortir mon portefeuille pour voir qui était dessiné sur les billets. Ce n'était pas qu'une question de ressemblance. Il y avait son rire. Elle était assise, là, à côté d'un homme qui avait le même visage qu'elle, à supposer qu'il eût encore un visage sous tous ses bandages, et elle riait.
« Bienvenue dans la chambre 19 de l'hôpital Vahadash, » lança Heidi.
« Je me demande pardon.
Je voulais juste dire que je sais ce que ça fait, Don. Nous le savons, tous les trois. Continuez. »
Je me suis présenté et j'ai demandé si je pouvais entrer. Et en le disant, je repensais à Barlow, le vampire. Je me disais, il faut les inviter à entrer la première fois. Ensuite, ils vont et viennent comme ça leur chante. Elle m'a dit que, bien sûr, je pouvais entrer. Elle m'a dit qu'elle était venue de Chicago pour être auprès de lui à l'heure de la fermeture, comme il disait. Puis, de la même voix plaisante, elle m'a dit, « Je vous ai reconnu tout de suite, à cause de cette cicatrice sur votre main. »
Dans ses lettres, Rowan disait qu'il était presque certain que vous étiez prêtre dans votre autre vie. Il avait pour habitude de parler de l'autre vie des gens, c'est-à-dire celle d'avant l'alcool ou la drogue ou la folie ou les trois à la fois. Celui-là, il était charpentier dans son autre vie. Et elle, elle était mannequin dans son autre vie. Pour vous, il avait raison ?
Et le tout dit de la même voix plaisante, comme une femme qui discute de tout et de rien dans un cocktail. Et Rowan, allongé là, la tête recouverte de bandages. Avec des lunettes noires, il aurait pu ressembler à Claude Reims dans l'homme invisible. Je suis entré. J'ai dit que j'avais effectivement été prêtre, oui, mais que c'était du passé tout ça. Elle a tendu la main, j'ai tendu la mienne. Parce que, vous voyez, je croyais que...
6. Il tend la main parce qu'il suppose qu'elle veut la lui serrer. C'est la voix plaisante qui l'a trompé. Il ne se rend pas compte que Rowena Magruder Rawlings ne tend pas la main, mais qu'elle la lève. Tout d'abord, il ne comprend pas qu'il s'est fait gifler, gifler assez fort pour lui faire bourdonner l'oreille et pleurer l'œil gauche. Il se dit vaguement que cette chaleur qui envahit sa joue doit être une sorte d'allergie farfelue, peut-être une réaction nerveuse. Et alors, elle s'avance vers lui, le visage ruisselant de larmes, ce visage qui ressemble de façon dérangeante à celui de Rowan.
« Allez-y, regardez-le bien, » dit-elle. « Parce que vous savez quoi ?
C'est ça, l'autre vie de mon frère, la seule qui lui reste.
Approchez-vous et jetez un bon coup d'œil. »
Ils lui ont arraché les yeux et une de ses joues aussi.
Coucou, on voit les dents à travers.
La police m'a montré des photos.
Ils ne voulaient pas, mais je les ai obligés.
Ils lui ont aussi fait un trou dans le cœur. Mais je suppose que les médecins l'ont bouché. C'est son foie qui est en train de le tuer. Là aussi, ils lui ont fait un trou. Et c'est en train de mourir.
Mademoiselle Magrodeur, c'est Madame Rawlings, pour peu que ça vous intéresse d'ailleurs. Allez-y, regardez bien. Regardez ce que vous lui avez fait.
J'étais en Californie. J'ai appris la nouvelle dans le journal.
Oh, je n'en doute pas, j'en suis sûr. Mais vous êtes le seul que j'ai sous la main, vous voyez? Le seul proche de lui.
Son autre copain est mort de la maladie des tapettes. Et les autres ne sont pas là. Ils se gavent de nourriture gratuite là-bas, dans cet asile de nuit, je suppose. Ou bien ils discutent de la nouvelle dans leur réunion. Ils disent ce qu'ils ressentent. Eh bien, révérend Callahan, ou bien Esper Callahan, je vous ai vu vous signer. Je vais vous dire ce que moi je ressens.
Ça me rend folle de rage.
Elle a toujours cette voix plaisante, mais quand il ouvre la bouche pour répondre, elle lui pose l'index sur les lèvres, et la pression de ce doigt contre ses dents est telle qu'il abandonne.
Qu'elle parle.
Pourquoi pas? Ça fait des années qu'il n'a pas entendu de confession.
Mais c'est comme le vélo.
Il est sorti diplômé de l'université de New York avec mention.
Vous le saviez?
Et il est arrivé deuxième au concours de poésie du Beloit Poetry Journal en 1949.
Vous le saviez, ça? Alors qu'il était lycéen, il a écrit un roman. Un beau roman.
Et il est dans mon grenier, en train de prendre la poussière. Callahan sent une rosée tiède lui couvrir le visage. Une rosée qui vient de sa bouche à elle.
Je lui ai demandé, non, je l'ai supplié de continuer à écrire.
Et il s'est moqué de moi, il m'a dit qu'il n'avait aucun talent. Laissons ça aux Myler, O'Hara et autres Ewing Shaw, a-t-il dit, à des gens vraiment doués. Je finirai dans une tour d'ivoire à fumer une vieille pipe en écume et à ressembler à Monsieur Patate.
Et pourquoi pas?
Mais il s'est impliqué dans le programme des alcooliques anonymes. Et de là, il paraissait logique d'ouvrir un asile de nuit et de traîner avec ses amis. Des amis comme vous.
Callahan est ébahi. Jamais il n'a entendu prononcer le mot « ami » avec un tel mépris.
« Mais où sont-ils maintenant qu'il est mourant ?» lui demande Rowena Magruder Rawlings. « Hein ? Où sont tous ces gens qu'il a soignés, tous ces journalistes qui crient au génie ? Ouais, Jane Pauley ? Elle l'a interviewé dans cette émission de télé, vous savez ? Deux fois ! Et ouais, cette putain de mère Teresa ! Dans une de ses lettres, elle disait que quand elle était venue au foyer, il l'avait appelée la petite sainte. Eh bien, il aurait bien besoin d'une sainte, alors qu'il est. Mon frère aurait bien besoin d'une sainte tout de suite qui pose les mains sur lui. Alors, où elle est, bon Dieu ?
Les larmes roulent sur ses joues. Sa poitrine se soulève et retombe. Elle est belle et terrible.
Elle rappelle à Callahan la dessin de Shiva qu'il a vu, la déesse hindoue de la destruction.
« Pas assez de bras, » se dit-il. Et il est pris d'une envie irrésistible et suicidaire de pouffer de rire.
« Ils ne sont pas là, il n'y a que vous et moi, pas vrai ? Et lui ? Lui qui aurait pu remporter le prix Nobel de littérature ? Ou qui aurait pu enseigner à 400 étudiants par an pendant 30 ans ? Qui aurait pu toucher 12 000 esprits avec la force du sien. Au lieu de ça, il est là, dans ce lit d'hôpital, le visage arraché, et ils vont devoir hypothéquer son putain d'asile de nuit pour payer les derniers soins pour sa maladie, si on peut appeler maladie le fait de se faire découper, et son cercueil et ses obsèques. »
Elle lui jette un regard, le visage sans défense et souriant, les joues brillantes de larmes et des filets de morve coulant du nez.
Dans son ancienne vie, père Callahan, il était l'ange de la rue. Mais celle-ci est sa dernière vie. Très excitant, n'est-ce pas?
Je vais aller à la cafétéria me chercher un café et un pain au raisin. Je compte y rester une dizaine de minutes. Ça vous laisse largement le temps de faire votre petite visite. Rendez-moi service. Soyez parti quand je reviendrai. Vous et toute la bande de ces bonnes âmes, vous me rendez malade. Elle s'en va. Ses talons plats claquent le long du couloir. Ce n'est que quand le cliquetis s'étue complètement, le laissant seul au milieu des bips des machines, qu'il se rend compte qu'il tremble des pieds à la tête. Il ne pense pas qu'il s'agisse d'une attaque de délirium très mince, mais, bon Dieu, c'est bien à ça que ça ressemble. Quand la voix de Rowan s'élève de sous les bandages, Callahan pousse presque un hurlement. Les paroles de son vieil ami sont complètement mâchées. Mais Callahan n'a pas de mal à en comprendre le sens.
« Elle a fait ce petit sermon au moins 8 fois depuis ce matin, et elle ne prend jamais la peine de préciser que l'année où je suis arrivé 2e au concours du Beloit Poetry Journal, il n'y avait que 4 inscrits. Il faut croire que la guerre avait aussi fait mourir l'élan poétique chez beaucoup de gens. Comment ça va, Don ? »
Sa diction est mauvaise, sa voix est râpeuse, mais c'est bien Rowan, pas de doute. Callahan s'approche de lui et lui prend les mains posées sur le couvre-lit. Elle s'enroule autour des siennes avec une fermeté étonnante.
Pour ce qui est de ce roman, mon vieux, c'était du James Jones de 3e zone. Ça veut dire pas brillant.
Comment tu te sens, Rowan ? Demanda Callahan. À présent, il pleure et la pièce va bientôt se mettre à tourner.
Oh, dans un état « merdique !»
dit l'homme de sous ses bandages.
« Merci d'être venu !»«
Pas de problème !» répond Callahan. « De quoi as-tu besoin, Rowan ? Qu'est-ce que je peux faire ?»«
Tu peux rester à distance du foyer !»
dit Rowan. Sa voix défaille, mais il serre toujours les mains de Callahan.
« Ce n'était pas moi qu'ils cherchaient, c'est après toi qu'ils en avaient. Tu comprends ce que je te dis, Don ? C'est toi qu'ils cherchaient. Ils n'arrêtaient pas de me demander où tu étais, et à la fin je leur aurais dit si j'avais su, crois-moi. Ce n'était pas le cas, bien sûr. »
L'une des machines se met à biper plus vite. Le bip accélère au point de déclencher une alarme. Callahan ne sait pas comment il sait, mais il en est persuadé. Dieu sait comment.
Rowan, est-ce qu'ils avaient les yeux rouges ? Est-ce qu'ils portaient, je ne sais pas, des manteaux longs, comme des imperméables ? Est-ce qu'ils sont venus dans des grosses voitures extravagantes ?
Rien de tout ça.
Chuchote Rowan.
Il devait avoir une 30aine d'années, mais ils étaient habillés comme des adolescents. Ils avaient l'air d'adolescents aussi. Et ils en auront encore l'air pendant 20 ans s'ils vivent assez longtemps. Et puis, un jour, ils se réveilleront, vieux.
Callahan se dit, rien d'autre qu'une bande de voyous. C'est ce qu'il essaie de me dire. C'est bien ça. C'est forcément ça. Mais ça ne veut pas dire que les frères Hitler n'ont pas été engagés par les ignobles pour ce boulot. Ça se tient. Même dans les quelques lignes de l'article, il disait bien que R.W. Magruder n'avait pas le profil type des victimes habituelles des frères.
Si
tiens-toi à l'écart du foyer,
murmure Rowan. Mais avant que Callahan ait pu le lui promettre, l'alarme lâche bel et bien. Pendant un instant, les mains dans les siennes serrent plus fort, et Callahan sent en elle le fantôme de cette vieille énergie qui habitait cet homme, cette énergie folle et farouche qui avait su garder les portes du foyer ouvertes toutes les fois que le compte en banque a sombré, cette énergie qui avait su attirer des hommes capables de faire tout ce que Rowan McGruder ne pouvait faire tout seul. Puis la chambre commence à se remplir d'infirmières. Il y a un médecin à l'air suffisant qui hurle quand lui donne le dossier du patient, et la sœur jumelle de R.W. sera bientôt de retour, et cette fois-ci, elle crachera peut-être le feu. Callahan décide qu'il est temps pour lui de quitter ce grand bazar, et le plus grand bazar au monde, c'est New York. Les ignobles s'intéressent toujours à lui, s'y intéressent même de très près. Et s'ils ont une base pour leurs opérations, c'est très probablement ici même, dans la grande ville de tous les plaisirs. Par conséquent, une virée sur la côte ouest serait sans doute la meilleure initiative. Il n'a pas les moyens de s'offrir un billet et retour en avion, mais il lui reste assez de liquide pour chevaucher le grand chien gris. Ça ne sera pas la première fois d'ailleurs. Une petite excursion à l'ouest, pourquoi pas? Il se voit très clairement assis à la place 29C avec un paquet de cigarettes neuves dans la poche de sa chemise, une bouteille neuve d'Early Times dans un sac en craft, le nouveau roman de D. MacDonald, neuf lui aussi, posé sur ses genoux. Peut-être se retrouvera-t-il de l'autre côté de l'Hudson en train de chevaucher vers Fort Lee, immergé dans le chapitre 1, sirotant son deuxième verre avant qu'il n'éteigne toutes les machines de la chambre 577. Et que son vieil ami ne s'enfonce dans les ténèbres et ce qui nous attend dans l'au-delà. 7. 577, répète Eddie.
19,
acquiesce Jake.
Je vous demande pardon, dit à nouveau Callahan.
5 plus 7 plus 7. Résume Susanna. Vous les additionnez, et ça fait 19.
Et ça signifie quelque chose?
Si on met tout bout à bout, on en revient à mère, un mot qui veut tout dire pour moi, dit Eddie avec un sourire sentimental.
Susanna l'ignora.
« On ne sait pas. Vous n'avez pas quitté New York, n'est-ce pas ?»«
Si c'était le cas, jamais vous n'auriez récolté ça, » dit-elle en désignant la cicatrice sur le front de Callahan.
« Oh, si, je suis parti. Seulement pas aussi tôt que je l'aurais voulu. En quittant l'hôpital, j'avais vraiment l'intention de retourner à Port Authority et d'acheter un billet pour le bus 40. »«
Par ici, on l'appelle bus 19. » glissa Eddie.
Mais en chemin, je me suis mis à penser au passé. Certains souvenirs étaient drôles, comme quand des types du foyer avaient monté un spectacle de cirque. D'autres étaient effrayants, comme ce soir où, juste avant le dîner, un type avait dit à un autre « Arrête de te curer le nez, Jeffy, ça me dégoûte !» Et où Jeffy avait répondu « Et ça, ça te dégoûte ?» Et avant que quiconque ait pu bouger, il avait attrapé cet énorme couteau et lui avait tranché la gorge. Loupé avait hurlé, et moi je m'étais exclamé « D'où Jésus ?» Et le sang avait giclé partout parce qu'il avait chopé la carotide, ou c'était peut-être la jugulaire. Et Rowan était sorti des toilettes en courant, tenant son pantalon d'une main et un rouleau de papier de l'autre. Et vous savez ce qu'il a fait ?«
Il s'est servi du papier, » suggéra Susanna.
Callahan eut un grand sourire. Il avait l'air plus jeune quand il souriait.
« Bon salaud, sûr qu'il s'en est servi. Il a plaqué le rouleau tout entier contre la gorge du type et il a hurlé à Loupé d'appeler les secours. Et moi, je me tenais là, regardez ce rouleau de papier viré au rouge, le sang s'insinuait jusqu'au support en carton. Rowan a dit « Vois ça comme la plus grosse coupure qu'un type puisse se faire en se rasant. » Et on a éclaté de rire, on a ri, en pleuré.
Je me repassais tous ces souvenirs, vous voyez. Les bons, les mauvais, les moches. Je me rappelle vaguement m'être arrêté au supermarché du coin et en être ressorti avec quelques canettes de Bud dans un sac en papier. J'en ai bu une en marchant. Je faisais pas attention où j'allais, pas consciemment du moins. Mais mes pieds devaient suivre leur instinct à eux, parce que quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que j'étais en face de cet endroit où on allait parfois dîner, quand on était, comme on dit, en fond, au coin de la 2e et de la 52e.
« Mama Chocho !» fit Jake.
Callahan le considéra d'un air ébahi, puis se tourna vers Roland. « Pistolero, vous commencez un peu à me faire peur, tous. »
Roland se contenta de faire tourner ses doigts à l'air de dire « Continuez, camarade. »
« J'ai décidé de rentrer et de prendre un burger en souvenir du bon vieux temps. Et pendant que je le mangeais, j'ai décidé que je ne voulais pas quitter New York sans avoir au moins jeté un œil au foyer par la grande fenêtre de devant. Je pouvais me tenir sur l'autre trottoir comme je l'avais fait après la mort de Loupé. Pourquoi pas? Là-bas, j'avais jamais été ennuyé, ni par les vampires, ni par les ignobles. Il leur jeta un regard. Je ne sais pas si j'y croyais vraiment ou si c'était une ruse suicidaire de l'esprit. Je me rappelle beaucoup ce que j'ai ressenti cette nuit-là, ce que j'ai dit et pensé. Mais pas ça. Quoi qu'il en soit, je ne suis jamais arrivé au foyer. J'ai réglé mon repas et j'ai redescendu la 2e avenue. Le foyer était au coin de la 1ère avenue et de la 47e rue, mais je ne voulais pas passer directement devant. Alors, j'ai décidé de descendre jusqu'au croisement de la 1ère et de la 46e et d'arriver par là.
Pourquoi pas à la 48e, demanda doucement Eddie.
Vous auriez pu tourner dans la 48e, ça aurait été plus rapide. Ça vous aurait évité de revenir sur vos pas.
Callahan réfléchit un instant, puis répondit.
S'il y avait une raison précise, je ne m'en souviens pas.
Il y avait bien une raison, affirma Susanna. Vous vouliez passer devant le terrain vague.
Pourquoi j'aurais...
Pour la même raison que les gens aiment passer devant une pâtisserie au moment où on sort les croissants du four, fit Eddie. Il y a des choses qui font du bien, c'est tout.
Callahan accueillit la réponse d'un air dubitatif et haussa les épaules.
Si vous le dites.
Je le dis, ça est.
Quoi qu'il en soit, je marchais en sirotant ma 2e bière. J'étais presque arrivé au coin de la 2e et de la 46e quand...
« Quoi ?» demanda Jake d'une voix impatiente. « Qu'est-ce qu'il y avait au coin en 1981 ?»«
Je ne... » commença Callahan, puis il s'interrompit. « Une barrière, plutôt haute, un genre de palissade, entre 2,50 m et 3 m de haut. »
« Pas celle qu'on a escaladée, » fit remarquer Eddie à Roland, sauf si d'elle-même elle avait poussé d'un bon 1,50 m.
« Il y avait un dessin dessus, » poursuivit Callahan. « Ça, je m'en souviens. De l'art de rue, mais je n'arrivais pas à voir ce que ça représentait parce que les réverbères au coin avaient grillé. Et tout à coup, ça m'a frappé. Quelque chose n'allait pas. Une alarme s'est déclenchée d'un seul coup dans ma tête, qui ressemblait beaucoup à celle qui avait rameuté tout ce monde dans la chambre d'hôpital de Rouen, pour tout vous dire. Tout à coup, je n'ai pas cru que j'étais bien là. J'étais devenu dingue. Pourtant, en même temps, je me disais,